Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de Jazz Exploration, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Prince, guitariste en Blue Note Mode dans son dernier album et faisant voyager la note bleue au-delà des frontières. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Jean-François Prince.
Bonjour Thomas.
Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration.
Mais avec grand plaisir.
C'est un plaisir de t'avoir. Merci de t'être libéré pour qu'on puisse faire cet échange et discuter de tes projets à venir. Mais sans rentrer dans le détail de suite, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Parce que on te connaît comme guitariste, mais en fait dans la musique tu y es tombé comme Obélix quoi, quand tu étais petit dans la marmite.
Oui, c'est à peu près ça. Ouais, c'est vrai. Mais comment dire, je suis musicien, c'est clair que je suis musicien, je suis guitariste, producteur, compositeur, arrangeur, ingénieur du son. Donc je gravite de beaucoup de façons autour de la musique et de beaucoup d'angles différents. J'ai grandi dans le magasin de disques de ma maman. Mon père est né dans le magasin de disques de son papa. Donc, donc ça remonte à pas mal de temps. Et il y a toujours eu une énorme passion pour la musique en général et le jazz en particulier, mais pour toutes les musiques dans ma famille.
Ça t'était, j'ai noté même, donc il y a effectivement le magasin de disques, tu en parlais, mais je crois que ton grand-père a été dans la production, c'est ça, d'albums de jazz.
Tout à fait. En fait, il avait un magasin de disques.
Ah oui, d'accord.
Et il a toujours beaucoup aidé les jeunes artistes, pas seulement les musiciens. Mmh. Il y avait un grand contrebassiste de jazz belge qui s'appelait Paul Dubois, qui était un magnifique peintre. Et quand il avait 17 ans, le premier endroit où il a pu exposer, c'était dans le magasin de mon grand-père. Et donc mon grand-père a toujours beaucoup cru aux jeunes talents et beaucoup aidé des gens. Et il a enregistré beaucoup de la jeune scène du jazz belge dans les années, fin des années 30, début des années 40. Il est malheureusement décédé assez jeune, en 48. Mais ça lui a quand même donné le temps de faire beaucoup d'enregistrements qui ont fait date, dont une session avec Django Reinhardt en 1942, avec le big band de Stan Brenders, et aussi des sessions où Django jouait du violon. C'est les seuls enregistrements où il joue du violon.
Waouh. Ouais. Je savais même pas qu'il avait joué du violon.
Mais en fait, il était violoniste avant de se faire brûler.
Bloqué par rapport à...
Ouais. Ouais, c'est ça.
D'accord, ok. Waouh, super, super histoire. Donc si on se voit aujourd'hui, c'est parce que y a un projet qui vient juste de sortir le 1er mars de cette année, donc un nouvel album Blue Note Mode.
Exactement. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet album, sur ce qu'il représente ? Enfin, le nom est un peu évocateur, mais voilà.
Mais pour moi, il représente beaucoup de choses, évidemment. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Qui n'est pas seulement dédié au label Blue Note, mais plutôt à une façon de voir les choses, une certaine époque dans la musique. Et qui a été enregistré chez Rudy Van Gelder, qui est le studio légendaire où la plupart des albums Blue Note et Impulse et CTI, etc., d'autres labels ont été enregistrés. Je connaissais bien Rudy, j'avais enregistré chez lui plusieurs fois, mais c'est la première fois que j'enregistrais là en tant que leader, j'avais vraiment envie de le faire depuis longtemps. Malheureusement, Rudy est disparu à l'époque du Covid, mais il a très très bien fait les choses comme toujours, c'est-à-dire qu'il a légué son studio, il l'a laissé en héritage à la dame qui était son assistante pendant les 25 dernières années, donc qui connaît le studio par cœur et qui connaît exactement sa philosophie, etc., quoi, et qui continue dans le même esprit.
D'accord.
Donc pour moi c'était important de le faire là, et c'était aussi important, j'ai vécu à peu près 25 ans à New York, toute une partie en part-time, je partageais entre New York et Berlin, mais l'endroit où j'ai le plus d'amis, où j'ai le plus de connexions musicales, c'est New York. Donc c'était important pour moi de reconnecter avec ma scène new-yorkaise et de faire un nouvel album, de le faire là, et de revenir un petit peu à une partie de la musique qui est très importante pour moi, qui est quelque chose où on se concentre beaucoup sur le groove, les racines blues, tout en ne faisant absolument aucune concession et en faisant de la musique moderne d'aujourd'hui, mais en gardant une mélodie forte qui nous prend au trip, quoi. Voilà, c'est ça la base.
Avec cette inspiration notamment américaine du jazz, quoi. C'est sûr que
tout à fait.
Ce groove-là, on le retrouve beaucoup. Peut-être des fois un peu moins quand en Europe, on est sur des musiques qui mélangent plus des inspirations contemporaines avec du jazz, où là, effectivement, on est sur autre chose. Mais donc cet album, effectivement, tu le disais, c'est un album qui rend hommage à une philosophie, qui rend hommage aussi à des personnes qui ont été visiblement des références un petit peu pour toi. Enfin, je pense notamment au titre Ornately.
Oui, bien sûr.
Qui rend hommage à Ornette Coleman et à Lee Konitz.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler de cette relation que tu as avec ces artistes-là ?
Absolument, oui. Mais, Lee Konitz, c'était mon second mentor, en fait. Le premier, c'était Toots Thielemans. Et Lee Konitz, je l'ai rencontré au début des années 90 par mon ex-femme, qui est une grande chanteuse américaine qui s'appelle Judy Nemac, et qui, elle, avait étudié avec Warren Marsh, qui était le confrère de Lee Konitz dans le groupe de Lenny Tristano. Ouais. Et Lee est tout de suite devenu un grand ami et vraiment un mentor, quoi. J'ai appris énormément avec lui, j'ai fait des dizaines et des dizaines de concerts avec lui et plusieurs albums. Et il m'a appris tellement de très très belles choses et de choses importantes qui restent avec moi aujourd'hui et que j'espère partager avec les autres aujourd'hui. Et Ornette, c'est quelqu'un dont je savais que la musique était extrêmement importante, mais ça m'a pris des années pour pouvoir entrer dedans. Je n'irai pas jusqu'à dire la comprendre toujours, mais parce que comprendre, c'est pas toujours important, mais il faut sentir les choses. Et Ornette, j'écoutais ses albums dans le magasin de ma maman, et je me disais, c'est génial, mais pourquoi ? Je parviens pas. Et il y a eu un concert à Bruxelles il y a très très longtemps qui s'appelait Love Supreme Night, où c'était tous des gens qui avaient joué avec Coltrane dans la deuxième partie, mais la première partie, c'était le quartet original d'Ornette, avec Don Cherry et Charlie Hayden et Billy Higgins. Et je me suis dit, bon, je vais souffrir pendant la première partie, mais j'y vais, quoi. Et c'était de la musique pure, d'une beauté absolument incroyable, qui m'a tellement touché. Et j'en ai parlé avec Lee des années après. Et il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Et il m'a montré une vidéo dont j'ignorais qu'elle existait, où il était l'invité d'Ornette.
Ah oui, d'accord.
Avec le trio d'Ornette au Umbria Jazz Festival à Perugia, en Italie. Et ils jouaient ensemble. Et ça avait tellement de sens parce que, en fait, à ce niveau-là d'intensité, de virtuosité, de connaissance de soi. Je veux dire, ce sont des gens qui sont très vite devenus des virtuoses d'eux-mêmes. Ils savaient très très bien comment exprimer qui ils étaient. Leurs musiques vont tellement bien ensemble. C'est magnifique, quoi. Et donc, quand j'ai fait un concert avec Kazimir Liberski il y a quelques années, j'ai écrit ce morceau, Ornately, en me disant, je vais écrire un morceau pour nos deux mentors. Et évidemment, c'est un blues,
oui,
un peu spécial. Mais voilà, donc ce sont les deux des grands altistes qui ont vraiment changé notre musique plusieurs fois après Charlie Parker pour moi.
D'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai que Ornette Coleman, c'est drôle parce que ce que tu décris, c'est un peu l'approche en fait free. Alors je sais pas si c'est ça toi qui t'empêchait de vraiment y mettre un pourquoi en fait, pourquoi
ça
tu
m'empêchait
aimes.
Pas vraiment, mais je comprenais pas sa conception du free, ouais, alors que d'accord. c'est un des tout premiers évidemment. Ouais. Mais ce qui était intéressant, c'est aussi un de mes meilleurs amis à Berlin, c'était Walter Norris, qui est sur le premier album d'Ornette Coleman, le pianiste. Et il m'a dit qu'il a toujours essayé de convaincre Ornette qu'il n'était pas le bon pianiste pour enregistrer avec lui. Il dit non, tu dois trouver quelqu'un qui est plus dans ton truc. Il dit non, c'est toi que je veux. Et en fait, Ornette vient directement de Bird. Clairement, il y a pris ce truc de blues aussi. Mais il joue la mélodie, il y a des enregistrements où par exemple il joue Klaktovitstein, un morceau bebop, et puis il joue la mélodie et c'est du bebop, et puis il commence à improviser, et c'est comme si on jouait du bebop à l'envers, quoi. C'est vraiment incroyable. Mais il jouait du free en tempo, et il jouait du free en gardant l'esprit de la mélodie, et pour moi c'est ça qui m'a vraiment touché, c'est que ça reste complètement dans le contexte de la composition. C'est pas comme si on joue une mélodie et puis on fait n'importe quoi pendant 10 minutes et puis on rejoue la mélodie. Il y a toujours l'esprit de ce morceau qui est là, tellement profond, tellement puissant. Et ça m'intéresse énormément, quoi. Mmh.
Je te rejoins assez là-dessus. Je pense que pour découvrir le free, passer par Ornette Coleman, c'est quand même ce qu'il y a de plus évident, parce que si on part directement dans les trucs qui vont vraiment trop loin, c'est quand même compliqué de se raccrocher à ça si on n'a pas un peu fait son oreille sur autre chose. Et aujourd'hui d'ailleurs, pas beaucoup d'artistes qui utilisent des influences free citent en fait Ornette Coleman en général comme référence, comme découverte. Ça a l'air d'être finalement assez partagé globalement.
Oui, tout à fait. Et puis il avait aussi une approche orale qui m'intéresse beaucoup, moi, parce que je suis un musicien autodidacte au départ, j'ai tout appris à l'oreille au départ. Et il refusait de montrer des partitions à ses musiciens. Il jouait les morceaux pour ses musiciens pour leur apprendre. Monk faisait la même chose avec ses musiciens.
Oui, tout à fait.
Et puis de temps en temps, plus tard, quand il connaissait bien le morceau, il leur montrait le papier, quoi.
Bon, si vous voulez aller plus loin.
Oui, c'est ça. Ou bien parfois, quand il y avait deux notes en même temps qu'il fallait jouer et que le musicien devait choisir, il y a un exemple extraordinaire dans le film Straight No Chasers.
D'accord. Et donc, là, il y a une référence qui est reprise sur le titre. Mais comment tu as constitué la tracklist de l'ensemble de l'album? Parce qu'alors, il y a des composition, on parlait de celle-ci notamment, mais c'est pas la seule. Il y a aussi Blue Note Mode qui donne le nom à l'album, qui est aussi une composition, mais il y a aussi des reprises. Et alors là, pour le coup, tu as pioché dans des artistes qui sont de générations complètement différentes, d'inspirations complètement différentes. Voilà, quelle a été la logique derrière cette construction-là?
J'ai toujours une setlist qui est bien trop grande. J'ai toujours plein d'idées pour enregistrer un album ou pour un concert aussi d'ailleurs. Je prépare toujours trop de morceaux. Parce qu'il y a tellement de choses que j'aime et que j'ai envie de partager avec tout le monde. Et y a certaines constantes chez moi. Je pense que c'est très, très, très rare que j'ai enregistré un album où il n'y avait pas un morceau de Wayne Shorter, par exemple. Parce que Wayne, pour moi, c'est une référence ultime. C'est un des musiciens qui m'ont le plus touché et inspiré et qui m'inspire tous les jours. Ce qui est important pour moi quand je choisis des morceaux, c'est bien sûr, il y a mes compositions à moi qui correspondent au groupe pour lequel j'écris, au moment où j'écris, au départ, mais que je peux jouer avec d'autres groupes après. Mais ce qui est important aussi, c'est de trouver des morceaux qui m'inspirent, mais qui sont pas vraiment pensés pour la guitare au départ. Donc je joue des morceaux de saxophoniste, des morceaux de pianiste, des morceaux de trompettiste, beaucoup. Parce que je pense pas purement en tant que guitariste. Je pense plutôt en tant que quelqu'un qui essaye de respirer la musique plutôt comme un souffleur.
Ouais, d'accord, ouais. Bah d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même beaucoup de soufflants qui sont repris. C'est beaucoup de morceaux. Donc, effectivement, Winton, Wayne Shorter, tu en parlais. Donc, tes inspirations, Ornette Coleman et Lee Konitz, quand même. Alors, quand même, il y a Round Midnight ou Monk est quand même dedans.
Ouais, bien sûr.
Là, on retombe sur un instrument.
Il y a deux pianistes. Il y a Monk. Il y a trois pianistes. Michel Herr, grand pianiste belge qui m'a énormément influencé aussi en tant que musicien et en tant que personne. C'est une des personnes qui a le plus de classe dans le monde et musicalement aussi, je trouve. Et un très très grand ami new-yorkais qui s'appelle Kirk Newrock, qui est aussi un pianiste. qui a écrit pour des shows de Broadway, qui a écrit plein de choses, qui a étudié à Juilliard la musique classique, et en même temps, quand il avait 18 ans, il a reçu un prix des mains de Duke Ellington pour un arrangement pour Big Ben qu'il avait écrit. Donc aussi beaucoup de références.
Justement, donc, tu parlais du groupe, tu as composé pour le groupe avec lequel tu joues à un moment donné. Qui sont les musiciens qui t'accompagnent sur cet album ?
Alors, j'ai un groupe de rêve, c'est vraiment extraordinaire. Donc, au départ, c'est un quartet autour de la guitare, avec au piano Danny Grissett, à la contrebasse Jay Anderson et à la batterie E.J. Strickland. Ils ont tous les trois un pédigré absolument...
C'est clair.
Abasourdissant.
Je pense qu'on peut le dire, on peut se permettre,
on va aller jusque là. En invité sur la moitié de l'album, j'ai deux souffleurs qui sont parfois séparés, et sur un morceau tout le monde est ensemble, et donc c'est à la trompette Jeremy Pelt qui devient une force incontournable sur la scène, et quelqu'un que je connais bien depuis quelques années, depuis de nombreuses années, que je connaissais à l'époque où il jouait dans le groupe de Roy Haynes. Et j'avais produit un album pour Judy Nemac qui s'appelait Blue Night, dans lequel Gary Bartz jouait, et à un certain moment Gary n'était pas libre pour certains des concerts. J'ai tout de suite été chercher ce fameux saxophoniste chez Roy Haynes qui s'appelle Jaleel Shaw, qui a une chaleur et un côté vraiment terre, un côté vraiment les pieds sur terre, que j'adore. Jaleel Shaw, merveilleux.
Waouh. Ouais, c'est vrai que ça fait rêver d'avoir tous ces musiciens ensemble, en plus dans le studio.
Oui, oui, oui. Blue
Note, il y a quand même plein de choses qui sont réunies. Et d'ailleurs, il y a quelques sessions de cet enregistrement qui sont visibles, puisque vous avez fait quelques vidéos, il y a des montages en tout cas qui sont disponibles.
Ouais. Et on a des très belles photos de la session aussi. Il y a une super photographe polonaise qui vit à New York, qui est venue nous immortaliser.
Ouais, c'est bien. Et donc c'est les vidéos, elles ont été faites au moment des prises, ou vous
tout
avez...
à fait.
Ouais,
ouais,
d'accord,
ouais.
D'accord. Ok. Et donc l'enregistrement, vous l'avez fait quand ?
Ça a été fait au mois de juin 2022.
2022. Ouais.
Et tout a été enregistré en deux jours.
Waouh.
Et donc on avait très très peu de temps parce que tout le monde était en tournée avant et après. Jaleel est rentré la veille au soir et il est reparti l'après-midi ailleurs. Donc vraiment, on a dû profiter des moments de liberté de chacun. Et donc la plupart du répertoire a vraiment été travaillé dans le studio et enregistré, quoi.
D'accord. Donc dans les conditions du live, vous étiez tous ensemble
complètement
côte à côte, quoi.
Ouais. Voilà. Non, on n'était pas tous ensemble dans la même pièce. Au fur et à mesure que les années passaient et que les techniques d'enregistrement évoluaient, Rudy a créé ce qu'on appelle des booths, donc des petites cabines sur les côtés. Il y a toujours cette grande salle principale dans laquelle on peut encore enregistrer un orchestre philharmonique, si on veut, ce qui est extraordinaire, dans laquelle moi je me trouvais. Il y avait une booth pour le piano, une pour la contrebasse, une pour la batterie. Et quand on enregistrait avec les souffleurs, ils étaient avec moi aussi dans la grande salle.
D'accord.
Donc c'était comme ça.
Ok. Et donc sur cet album, il y a une date qui est prévu, notamment
Oui. On va faire un concert de sortie qui me réjouit profondément, au New Morning à Paris le 25 mars.
Alors pourquoi le New Morning pour faire cette sortie, et puis après je te poserai une question sur les personnes qui vont t'accompagner, puisque tu le disais, tout le monde était bien occupé, faire venir tout le monde des États-Unis, etc. C'était peut-être un peu
délicat. Juste pour un concert, c'était un peu impossible. On va faire des tournées avec le groupe de toute façon, avec les deux groupes, avec le groupe entre guillemets européen, donc ceux qui vivent ici et puis ceux qui sont plutôt de l'autre côté de l'océan. Pourquoi le New Morning? Parce que c'est un endroit avec lequel j'ai énormément d'attaches. Je n'y ai pas encore joué. J'aimerais jouer beaucoup. J'ai beaucoup joué à Paris, évidemment, au long des années. Mais c'est un endroit où des gens comme Dexter Gordon, Chet Baker, des gens comme ça jouaient régulièrement et qui a une histoire, qui a aussi une espèce de côté mythique, un peu comme le studio de Rudy, quoi. Je suis très excité d'aller jouer là. Et le groupe avec lequel on va jouer le 25 mars, c'est aussi un groupe auquel je tiens beaucoup, parce que ce sont des très grands musiciens et des amis. C'est Jean-Paul Estievenard à la trompette qui devient une grande force au niveau européen et plus, avec qui je joue depuis quelques années dans des groupes différents. Un de mes plus vieux amis musicaux, c'est Eric Lénini, qui jouait dans mon premier groupe quand j'avais 18-19 ans et que lui en avait 16, et avec Stéphane Galland à l'époque à la batterie et Jean-Louis Baudouin à la contrebasse. Et Eric, entre-temps, évidemment, c'est devenu un des tout grands pianistes sur la scène parisienne, et il joue avec plein de gens, et aussi un petit peu comme moi, il n'a pas vraiment de mur entre les styles de musique, il s'intéresse à beaucoup de choses différentes et il joue avec beaucoup de gens et c'est toujours magnifique, il y a toujours la touche d'Eric, son toucher. À la contrebasse, un grand contrebassiste qui est aussi un grand bassiste électrique, c'est Reggie Washington, qu'on a pu voir dernièrement avec son groupe Black Lives.
Tout à fait.
Qui est magnifique.
Ouais, super projet.
Ouais, ouais, extraordinaire. Et un jeune batteur que j'ai rencontré ces dernières années en Belgique, qui est un batteur américain, qui s'appelle James Williams, et dont on va beaucoup entendre parler. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire aussi. Donc, voilà.
Donc All-Star aussi, quoi, finalement.
Oui, exactement. Oui, mais tant qu'à faire.
Il fallait quand même conserver un peu l'esprit de l'album.
Voilà.
En termes de... D'accord. Ben, ça va être un grand moment, concert au New Morning. Les places sont déjà en vente?
Absolument. Oui, elles sont trouvables. Vous pouvez les trouver dans mon lien bio sur Instagram. Sur Facebook, il y a beaucoup de posts, et puis directement sur le site du New Morning, quoi.
Et donc tu disais, il y a des choses qui vont être prévues avec les deux groupes. Comment tu envisages les choses? Alors, je sais que les dates sont pas encore forcément toutes disponibles, mais idéalement, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais faire avec cette tournée? Est-ce que voilà, il y a un tour aux États-Unis, après un tour en Europe? Comment tu vois un
peu? On va commencer avec l'Europe. On va commencer avec l'Europe, mais quand même avec des vues sur les États-Unis et peut-être même un petit peu sur l'Asie. Ce qui m'intéresserait beaucoup, j'ai joué à Taïwan, mais je n'ai pas encore joué au Japon. J'aimerais beaucoup le faire, parce que c'est quand même un endroit où les gens adorent et connaissent tellement bien notre musique. Et mes albums ont toujours été distribués là-bas, mais jusqu'à présent, je n'y suis pas encore allé.
D'accord. Ouais, c'est un point qui est remonté par énormément d'artistes qui ont l'opportunité ou de vendre ou d'aller là-bas. C'est quand même un pays de connaisseurs, d'amateurs. Je crois qu'il y a, je sais pas combien, des centaines de clubs de jazz à Tokyo.
Oui, tout à fait. Oui. Et c'est vraiment des fans, quoi. Ce sont des gens qui sont des vrais collectionneurs et qui écoutent la musique d'une façon très très précieuse.
À côté de cette carrière de musicienne, tu disais, hein, tu es producteur, etc. Tu as d'ailleurs ton propre label.
Oui, c'est exact. Oui.
Pourquoi avoir son propre label? Quelles sont les motivations pour toi d'avoir ce label-là? Et puis, deuxièmement, dans la période dans laquelle on est, comment on fait pour faire fonctionner un label de nos jours?
Ça, c'est une excellente question. Comment fait-on, en fait, ça part toujours de la même passion. Hein. C'est le même départ. Et au départ, c'est un label qui avait été commencé par ma maman et quelques amis. Et parce qu'il y avait une nécessité pour elle de faire entendre certains artistes qui n'étaient peut-être pas représentés encore sur les labels qui existaient en Belgique, certains artistes qui étaient un petit peu moins soutenus par la communauté française ou bien simplement qu'il y avait un groupe mixte avec des artistes francophones, néerlandophones, etc. et qui du coup ne pouvaient pas jouer dans certains festivals, dans certains endroits, n'obtenaient pas certains budgets.
Dans les cases.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est un petit peu malheureux quand on parle de musique. Je veux dire, on parle du langage universel et on en a rien à foutre. Comme disait Miles, pour moi, qu'il soit vert et qu'il parle n'importe quelle langue, du moment que le type joue, ça m'intéresse, quoi. Donc voilà, c'était ça le départ. Et au départ, c'était un label qui se concentrait sur le jazz et le classique. Et moi, je l'ai repris quand je suis revenu en Belgique vers 2017. Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé que ça serait pas mal d'ouvrir un petit peu les choses aussi pour d'autres choses qui étaient de la musique où il y avait de l'improvisation aussi, qui était surtout acoustique aussi, mais il peut y avoir d'autres choses encore. Et donc j'ai créé une partie du label plutôt Beyond, sur lequel j'ai déjà sorti 3 albums aussi.
Oui, ça c'est intéressant, ces ouvertures dont tu parlais du Beyond, parce qu'en fait on voit qu'aujourd'hui il y a quand même une proposition musicale de musique improvisée. Est-ce qu'on peut encore les qualifier de jazz ou pas? Enfin, ça, après, ça appartient un peu à chacun, mais ou en tout cas la proposition est intéressante. Les artistes qui sont dedans sont bien évidemment inspirés, voire connaissent parfaitement bien le répertoire, mais proposent autre chose. Et aujourd'hui on voit que pour eux c'est dur parce que, encore une fois, pour des histoires de cases, tu parlais de langue, mais là c'est pour des histoires de genre.
Oui, mais c'est exactement ça en fait. Beaucoup de gens ont tendance à vouloir vous mettre dans un tiroir, et c'est très rassurant de savoir que ok, je vais écouter machin, ça va être ça. Oui, mais certains artistes s'intéressent à des choses différentes, et peut-être qu'ils pourraient nous ouvrir des portes, des fenêtres dans des univers qu'on n'imagine pas. Et pour moi, c'est ça, lire un livre. J'adore me plonger complètement dans un univers que je connais pas du tout et me rendre compte que il y a plein de choses auxquelles j'aurais jamais pensé sinon. Et pour moi, la musique a ce rôle là aussi, quoi. Ce serait peut-être un petit peu exagéré de dire que c'est un rôle d'éducation, même s'il est là aussi. Mais c'est un rôle de prendre par la main et de faire découvrir d'autres choses. Quoi.
Non, et d'évasion, ça rentre dans la logique de l'évasion aussi.
Complètement.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, toi, tu as sorti déjà 7 albums en solo, studio.
C'est le 8e, oui.
C'est le 8e qui sort là. Aujourd'hui, quels sont tes rêves, tes projets musicaux dans un monde sans limite, sans contrainte?
Là, on n'a pas fini. Hein, dans un monde sans limite.
Justement, on a du temps. qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te resterait encore à faire? Ou alors que tu as envie de faire et que tu n'as peut-être pas fait parce que manque de temps ou manque de possibilités?
J'ai plein de projets que je suis en parallèle, avec lesquels je fais des concerts de temps en temps. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de me concentrer sur cet album-ci. Donc Blue Note Mode, je veux pouvoir amener ce message-ci et cette musique-ci avec ces groupes-ci à un maximum de public. Mais j'ai d'autres projets auxquels je tiens beaucoup. J'étais le premier guitariste en Belgique à faire un projet avec des cordes. Il y a une bonne dizaine d'années, presque une quinzaine d'années, j'ai commencé ça. Et je travaille maintenant avec le Quatuor à cordes de la Monnaie, C'est merveilleux, ce sont des musiciens extraordinaires. Et donc j'ai écrit tous les arrangements, certaines des compositions. J'ai une mindfulness suite pour ce groupe-là. Ça s'appelle All Strings Attached. Et donc ça, ce serait probablement un des prochains enregistrements que j'ai envie de faire. J'ai un groupe depuis très longtemps, un septet avec des souffleurs qui est un peu à géométrie variable. Au départ, je l'avais écrit autour de mon ami John Ruocco, qui était mon tout premier vrai professeur en musique, qui est un super saxophoniste, mais aussi probablement, c'est pas juste moi qui le dis, mais le plus grand clarinettiste de jazz moderne. C'est Eddie Daniels qui a dit ça dans une interview. Ouais. Et donc John jouait du ténor et de la clarinette dans ce projet. J'avais un élève à moi à Berlin qui jouait de la clarinette alto et un autre qui jouait du flugelhorn et avec une section rythmique. Et ça s'appelle Colliding Universes. C'est un projet qui m'a été inspiré par un livre sur la physique. Et il y a des morceaux du style Schrödinger's Cat Paradox et Is Beauty a Physical Principle et des choses comme ça. Okay. Donc,
science et art.
Voilà. Donc ça, ce sont deux projets que j'aime beaucoup. J'ai un autre projet qui me tient énormément à cœur, qui est Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, donc qui est la musique brésilienne présentée avec le style et les goûts d'un musicien de jazz. Et voilà, ça aussi, la musique brésilienne, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc voilà, plein de choses.
Ouais, plein de choses. Bah, c'est intéressant ce que tu as amené sur la musique brésilienne et sur les inspirations autres que américaines, en tout cas pour ces musiques-là. Je crois que j'ai vu, j'ai entendu un report, soit c'était un podcast ou une interview, je sais plus exactement d'où je l'ai entendu, mais où quelqu'un disait que le phénomène du jazz, alors le jazz est une musique américaine, afro-américaine qui plus est, mais que ce phénomène de musique improvisée, métissée au sens large, c'est un phénomène finalement qui est caribéen, voire même plus large que ça, et le Brésil, de par son histoire, de par son métissage, etc., rentre complètement dans cette culture un peu plus large des musiques improvisées avec un métissage de musique européenne et musique africaine qui a été amenée par les esclaves.
Oui, mais il y a plein de choses intéressantes. Hein. C'est un sujet qui me passionne. Une autre chose que j'ai faite beaucoup sur le jazz, c'est enseigner. Je dirigeais pendant 12 ans les deux départements guitare jazz des deux conservatoires de Berlin et j'ai beaucoup enseigné l'histoire du jazz. Et donc j'ai beaucoup lu et je continue à lire des livres d'histoire sur l'époque. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de choses viennent d'Afrique de l'Ouest. Les racines du blues, il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Entre autres du Dahomey qui est devenu le Bénin et qui est une des grandes racines de la partie africaine du Brésil. Pour la Nouvelle-Orléans qui est le berceau du jazz, plein de choses se sont passées à partir du moment où les esclaves se sont révoltés en Haïti. Haïti a une influence énorme sur le jazz. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a aussi le côté francophone en Haïti, du coup. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens se disputent pour décider d'où vient le mot « jazz ». On parle de jaser, avoir une conversation. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de racines françaises aussi, là à l'époque, dans le langage. Mais les Haïtiens, en tout cas l'influence des premiers anciens esclaves libres qui sont arrivés à la Nouvelle-Orléans d'Haïti, est difficile à mesurer, quoi. C'est énorme.
Oui, d'accord, ouais. Mais ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Joyeux Missile, qui a sorti justement un album il n'y a pas longtemps sur le sujet du bois caïman, qui est un peu l'acte fondateur de la révolte des esclaves d'Haïti vers une libération et puis vers une indépendance, puisque eux, il y avait le double phénomène, et qui parle beaucoup de ça. Il y a énormément d'artistes de Martinique et de Guadeloupe aussi qui justement sont un peu, enfin, rejoignent ton analyse et qui par contre sont un peu frustrés quand on leur dit mais attendez, ce que vous faites c'est de la begin, c'est pas du jazz. Ils disent mais attends,
ouais.
C'est fou,
ouais, c'est dingue. J'ai un très grand ami avec qui je fais souvent de la musique qui est un chanteur haïtien qui s'appelle Bitova au bass, qui est basé ici à Bruxelles aussi, et on en parle souvent aussi. Il y a un très très beau livre de d'Isabelle Allende qui s'appelle, moi je l'ai lu en anglais, c'est The Island Beneath the Sea ou quelque chose comme ça, et qui parle de cette époque-là où c'était Saint-Domingue et où il y a eu cette fameuse révolte.
Ouais. Ça c'est intéressant, mais ça rejoint ce que tu disais sur les frontières et sur comment ouvrir ça. Justement, en parlant de comment ouvrir ça, si on veut pouvoir venir t'écouter, toi, t'aimes bien jouer en club?
J'adore.
En salle,
ouais. J'adore. En fait, c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui au départ est maladivement timide. Quand j'étais jeune, avant de commencer à faire de la musique, j'ai commencé tard, hein, j'avais presque 18 ans. Et une des raisons pour lesquelles j'ai commencé si tard, c'est que j'avais tellement peur de faire quoi que ce soit devant les autres. Et maintenant, j'adore jouer dans des endroits très très intimes où je sens presque chaque personne dans la salle. C'est quelque chose de très important pour moi de partager avec les gens de toute façon. Mais ça ne me dérange pas de jouer dans des endroits énormes non plus. J'ai joué en duo avec Judy Nimac pour 20 000 personnes à Taïwan. J'ai joué devant 33 000 personnes dans les jardins de Potsdam.
Ah oui.
Un concert. C'était, wow. Là, on était 10 sur scène quand même, mais bon.
Oui.
10 pour 33 000, c'est quand même.
c'est quand même un ratio.
C'est aussi une énergie que je trouve absolument extraordinaire, même si on ne parvient pas tout de suite à connecter avec tout le monde, évidemment. Mais quand on sent que les gens sont avec vous. C'est d'une puissance, c'est phénoménal, quoi. Ouais. Donc j'adore jouer sur scène et j'adore trouver une connexion avec les gens. Parce que pour moi, la scène, c'est un endroit sacré et c'est un endroit où on est là pour partager. Bien sûr avec les autres musiciens, mais surtout avec les gens qui vous font l'honneur de venir vous écouter, quoi. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont besoin, parce qu'il y a plein de choses qu'on est là pour leur donner, quoi. Mmh.
Parce que ça leur plaît aussi.
Mais on espère. Et puis on espère les convaincre aussi s'ils ne savent pas.
Oui, tout à fait.
Moi, c'est un beau compliment quand quelqu'un me dit « Moi, j'y connais rien en jazz, mais ce que vous faites, ça me touche. Mmh. » Ou « J'adore voir comment vous interagissez avec les autres musiciens. » Ou des choses comme ça. Ça, c'est très important pour moi.
Mmh. Et justement, le jazz, en tout cas, ou les musiques improvisées, je ne sais plus comment on doit dire, surtout après tout ce qu'on vient de se dire. Je ne sais pas si toi tu le vois comme ça, mais j'ai l'impression que ça recommence à attirer à nouveau plus de gens, ou en tout cas plus de gens d'une nouvelle génération. Il y a eu un petit creux, on va dire, entre deux. Et notamment, ça revient par d'autres styles, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de styles qui ne sont pas identifiés comme tels, comme des genres de jazz, mm-hmm. Mais qui revendiquent un héritage, une appartenance, mm-hmm. une filiation, ou même juste des inspirations, des musiciens qui disent « moi je fais de la musique électronique, mais j'ai écouté à un moment donné beaucoup de jazz, donc d'une manière ou d'une autre, je fais rentrer le... » Est-ce que ça, toi, tu le constates? Et si oui, qu'est-ce qui pour toi a fait un peu le... À partir de quel moment t'as senti un changement? Et surtout, comment les gens l'abordent, justement, c'est peut-être nouvelle génération ou nouveau public, parce que c'est pas forcément que des nouvelles générations, aborde le sujet vis-à-vis de toi. Est-ce que tu as l'occasion d'échanger avec eux là-dessus?
Oui, tout à fait. Je le constate, absolument. Et c'est une réponse multiple géographiquement, en fait, parce que pour moi, je l'ai constaté beaucoup plus tôt à Berlin et à New York qu'ici. Donc, c'est un phénomène qui devient un phénomène universel, je pense, mais qui a évolué à une vitesse différente en fonction d'où on se trouve. Et oui, de plus en plus de gens arrivent dans des clubs de jazz qu'on n'aurait pas vu avant, des nouvelles générations, des gens qui viennent d'autre chose, qui viennent d'avoir écouté autre chose. Je pense que ça correspond à un besoin profondément humain de communiquer à un niveau inconscient, mais qui est beaucoup plus représenté dans les musiques où il y a un échange entre les musiciens. Quelle que soit la musique, on ne va pas mettre de label, mais si les musiciens doivent communiquer sur scène, doivent dépendre les uns des autres de ce que les uns et les autres font, et rebondissent là-dessus, et jouent au ping-pong les uns avec les autres sur scène, du coup, les gens reconnaissent cette énergie-là, même si c'est d'une façon inconsciente, et ils se disent, mais il y a un truc super excitant qui se passe là, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est marrant parce que pour moi, pour faire découvrir du jazz à quelqu'un, par exemple, ou de la musique improvisée, c'est très important de leur faire entendre des bons concerts d'abord. Parce qu'ils vont écouter les enregistrements d'une autre façon après. Et ils vont se rendre compte de ces interactions juste avec l'audio après. Mais il faut que ça commence par l'expérience en live, où on est dans la salle, on sent l'électricité qui passe entre les gens, et l'électricité passe par nous du coup. Et on dit « Wow, c'est quoi ça ?» Rien qu'en parlant, j'en ai un peu la chair de poule là, parce que c'est un truc tellement important pour moi. Et j'ai eu cette chance, depuis très très jeune avec mes parents, je suis allé écouter des concerts, et je comprenais plein de choses organiquement, sans avoir aucune idée de ce qui se passait vraiment théoriquement, musicalement, etc. Mmh. Mais on sent les choses d'une autre façon, quoi.
Mmh. Ouais, tout à fait. Bah, je ne peux que te rejoindre là-dessus. Et là où c'est très important, pour revenir sur le club, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est après le concert, on a l'opportunité, en général, d'échanger avec les musiciens, ce qui n'est pas forcément possible quand il y a 30 ou 20 000 personnes, comme
oui,
tu disais tout à l'heure.
C'est vrai, ouais.
Dans le club, c'est possible. Et ça, c'est aussi intéressant parce que finalement, on ne vient pas voir qu'une musique. C'est aussi une personnalité qui s'exprime sur scène et qu'on a l'opportunité de poursuivre après le concert. Donc, en tout cas, enfin.
C'est important pour moi aussi. Mmh. Je veux dire, en toute humilité, hein, je ne veux pas me comparer à mes héros. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de mes héros comme ça, ou même dans des plus grandes salles. Très souvent, avec mes parents, on allait vendre des albums au Palais des Beaux-Arts. Et après, j'ai rencontré les gens backstage, et j'ai discuté avec eux, j'ai rencontré très souvent Herbie Hancock et Wayne Shorter, et même des gens comme Oscar Peterson, des gens comme ça. Et on se rend compte qu'en fait, même pour des gens de cette stature-là, c'est très très important de communiquer avec leur public. C'est important de voir l'effet qu'ils viennent d'avoir sur quelqu'un, parce que eux se sont rendus compte d'une grande partie de cet effet qu'ils ont eu sur eux-mêmes, mais ils veulent savoir jusqu'à quel point ça arrive dans la salle, quoi. Ils veulent le sentir aussi et ils veulent rebondir là-dessus. Et c'est une connexion qu'il faut pas perdre, je trouve. Et moi, en tant que musicien, je trouve que c'est un de mes rôles. De vraiment communiquer avec les gens après, s'ils ont des questions, s'ils ont des réactions, et même s'ils me disent « mais pourquoi vous avez fait ça ? Ça, c'était pas bien, ça !» Parce que sinon, on s'en rend pas compte, quoi. Il faut pas rester la tête dans le trou, et il faut absolument garder ce fil avec les gens, quoi.
Herbie Hancock est très très fort pour ça. Alors, j'ai pas eu la chance de voir Wayne Shorter, malheureusement, sur scène. Et puis, bah, depuis, il nous a quittés. Bon, il était déjà malade depuis un certain temps, donc il ne jouait plus. Mais Herbie Hancock, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il tourne encore énormément, ce qui est une sacrée performance à l'âge qu'il a. Et l'interaction avec le public, elle est hyper forte avec Herbie Hancock. C'est incroyable. Il pointe du doigt les gens en disant hey, « Eh toi, machin ?» Enfin, il prend un peu à partie, mais c'est sympa. C'est pas méchant, mais il discute en direct avec une personne à un moment donné qu'il a identifié. Il parle aussi avec la totalité du public, c'est fou. Ça, c'est hyper agréable dans les musiques comme celle-ci, que ça puisse continuer à exister, en fait.
Oui, et puis ça démystifie un petit peu ce côté abstrait de la musique, surtout quand on va écouter un concert de musique instrumentale. Et à un moment où on se dit un petit peu « Ok, maintenant c'est parti dans les limbes, qu'est-ce que je vais faire ?» Et dans le public, hein, je veux dire. Et d'avoir ce côté humain qui est toujours là. Mais de toute façon, je trouve que la musique peut être aussi sophistiquée qu'on veut, avec beaucoup des artistes que j'aime. On sent toujours leur chaleur, leur humanité, leur côté. C'est maintenant, c'est la vérité, c'est ça qui se passe, quoi. Et c'est pas du tout quelque chose où ils sont occupés à faire des mathématiques dans leur tête. C'est un truc important qu'ils sont occupés à faire.
2010, alors tu as eu l'occasion de voir culturellement plein de choses différentes, de jouer sur plein de scènes différentes. Tu disais que pendant longtemps tu avais été entre New York et Berlin. 2017, tu reviens à Bruxelles. Quel est ce parcours en fait pour toi? Comment tu t'es retrouvé déjà entre New York et Berlin à un moment donné? Et là aujourd'hui, le retour à Bruxelles, qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce que ça fait de différent pour toi en tant que personne, mais aussi en tant qu'artiste, par rapport à ce que tu as pu vivre jusque-là?
C'est une vaste question.
Ouais.
Mais
c'est New des York... parcours de vie qui sont qui peuvent être atypiques, et donc ouais, je trouve que c'est intéressant de le partager pour des gens qui ont peut-être des parcours plus traditionnels, on va dire.
Ouais, tout à fait. Mais j'ai eu la chance de pouvoir suivre un petit peu mes idées et mes désirs, et New York, c'est la Mecque pour le jazz. Ça a toujours été un endroit de passage, entre guillemets, obligé, si on voulait rencontrer certaines personnes, si on voulait être exposé à certaines énergies, etc. Et si on voulait comprendre un petit peu une musique qu'on aime aussi, parce que quand on marche pour la première fois dans la rue à New York, on se rend compte que y a de l'électricité dans l'air, il y a une énergie dans la ville, même sans devoir aller écouter un concert, qui fait que la musique sonne d'une certaine façon, quoi. J'y suis allé pour la première fois en 1987, et c'est là que j'ai acheté ma guitare. Je l'ai trouvé tout de suite, c'était un dimanche, je l'ai vu dans la vitrine d'un magasin, je suis retourné le lundi matin avant que le magasin ouvre pour l'acheter. Et ça a tout de suite été un endroit où j'ai voulu passer beaucoup de temps. Donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'y retourner régulièrement, de passer du temps, je logeais chez des amis musiciens, j'étais au départ chez mon ami Pierre Vaiana, qui est un saxophoniste un belge ici, qui a plein de groupes différents, dont L'âme des poètes, et qui est une personne formidable. Et donc je babysitais ses enfants, et je me frottais à la scène new-yorkaise en même temps. Et c'était une chouette maison de musique. Il y avait Chris Defort qui vivait dans un des étages. Ouais. Et voilà, c'était une maison belge de musique dans le Queens à New York.
Ah ouais, incroyable.
C'était très sympa. Ça, c'était en 87. Et à ce moment-là, mes amis Eric Lenini étudiait à New York avec Richie Bayrak. Il y avait Stéphane Galland qui était là pour quelques semaines. Il y avait Félix Simtan qui était là pour quelques semaines. Il y avait Chris Defort et Pierre Vaiana. Il y avait toute une scène de musiciens de jazz belge qui étaient là à ce moment-là. Et j'ai rencontré plein de gens par eux, à travers eux. Et puis en allant à plein de concerts. Et puis je suis retourné régulièrement, de plus en plus. Et j'avais rencontré Judy Nimac. Et puis à partir de 1991, on était ensemble. Et donc on vivait ensemble dans son appartement dans le Bronx, où j'ai passé mes 25 ans. À New York, j'étais le seul homme blanc dans mon quartier là pendant 25 ans. Ouais, c'était aussi intéressant.
Ouais, c'est ça.
Pour une fois, d'être dans la minorité et de se rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire et de ce que ça implique. Et... j'ai eu la chance de rencontrer en personne énormément de mes héros et de travailler avec eux et d'échanger des idées avec eux et de vraiment me rendre compte de pas seulement de leur richesse, de leur générosité, mais aussi du côté sérieux de ce que ça impliquait pour eux, quoi. C'était vraiment toute leur vie, quoi. Et ils voulaient tout donner et continuer à tout donner. Et quand on voit des gens comme Toots ou Likonitz qui ont vécu longtemps pour des musiciens de jazz de cette génération-là, parce qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi, ils n'ont jamais arrêté de vouloir tout donner, de vouloir évoluer et de continuer à apprendre des choses. Et c'est pour ça aussi qu'ils étaient intéressés dans les nouvelles générations et qu'ils voulaient jouer avec des jeunes musiciens. Ils leur apportaient des choses, évidemment, mais ces jeunes musiciens leur apportaient beaucoup aussi.
C'est réciproque.
Et ça, c'est important aussi pour moi. C'est ce truc où notre musique est un sport d'équipe. On joue tous ensemble et on apporte plein de choses les uns aux autres. Et quand je joue avec des nouvelles générations de musiciens, ce qui m'arrive de plus en plus souvent, c'est très très riche pour moi, quoi. Et puis c'est chouette parce que de temps en temps on rencontre un jeune musicien, comme par exemple en discutant une des premières fois avec Jean-Paul Estienard, il m'a dit mais tu sais ton album avec Richard Rousselet, c'était un des albums que j'ai le plus écouté quand je commençais. Et c'est chouette, quoi, parce qu'on se rend compte qu'il y a une espèce de, je dirais pas une filiation, mais il y a un message qui est passé.
Continuité,
et qui évolue,
ouais.
et qui me revient d'une autre façon, quoi. C'est,
ouais.
c'est super,
c'est drôle, ouais, c'est clair. Incroyable.
Donc ça, c'était New York. Et à un certain moment, j'ai dû faire mon service militaire. J'étais une des dernières personnes en Belgique à devoir le faire. Et j'avais fait entre-temps mes études d'ingénieur du son à l'INSAS et mes études au conservatoire pendant 4 ans. Donc j'avais plus d'excuses, il fallait que je le fasse. Et donc je l'ai fait, et Judy est venue en Belgique à ce moment-là pour pas me laisser souffrir tout seul pendant un an. Et elle a accepté de devenir prof au conservatoire à Bruxelles et à Anvers et à La Haye. Et puis on l'a invitée à venir auditionner pour une place de professeur de chant en Allemagne, à Berlin. Et il y avait une partie de son audition où il fallait faire un concert. Donc j'ai joué dans son concert. Et à la fin de son audition, on était les derniers à passer. Quelqu'un est venu me parler. Il m'a dit, écoute, je suis le directeur de l'autre école à Berlin. C'est Judy la meilleure. Si elle décide d'accepter le job, est-ce que tu as envie de venir enseigner dans mon école ? J'étais pas du tout au courant qu'ils avaient besoin d'un prof, donc évidemment j'ai encore dû passer une audition, etc. Hein, c'était pas fait comme ça dans la poche tout de suite, mais sinon j'aurais jamais su ça. Et pour moi c'était important à l'époque, en plus d'être sur la scène new-yorkaise, d'être sur une autre scène européenne qui était extrêmement culturelle, dynamique, et aussi avec plein de genres différents qui se rentraient les uns dans les autres et qui s'influençaient. Et donc voilà, la scène berlinoise s'est ouverte pour moi et j'y étais pendant 20 ans, quoi.
Et alors, le comparatif entre les deux
Beaucoup de similarités.
Ah oui.
Même si pour moi, rien ne compare à New York, rien n'est comparable. Donc ce fait d'être ouvert à plein de choses, de ne pas préjuger les choses, ce qui dans les cultures francophones arrive souvent, je trouve.
Ouais, c'est clair. C'est le côté latin.
Oui, c'est ça un peu. Ouais, ouais. Que j'adore. Hein. Je suis.
J'ai aussi des avantages.
Ouais, je suis en plus à moitié italien du sud, donc le côté latin, je connais bien. Mais il y a ce truc où quelqu'un essaye quelque chose. Et à la limite, même s'il se plante, on va quand même avoir beaucoup de respect pour quelqu'un qui a essayé quelque chose, quoi. Et c'est très comparable à New York et à Berlin. Ceci dit, la vie à New York, pour les artistes, est beaucoup plus dure que n'importe où en Europe, parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas tous les systèmes qui existent ici. Et donc, à Berlin, il y a beaucoup de choses que les gens font qui ont peut-être moins d'énergie que ce qui se passe à New York, parce qu'à New York, quand on parvient enfin à faire son projet, on y va à fond, quoi, parce qu'on a eu tellement dur pour arriver jusque-là. Donc ça c'est un petit peu la différence pour moi. Par contre, plein de très très belles expériences à Berlin. Une des toutes premières choses que j'ai faites, j'étais dans un groupe où on allait faire des improvisations libres sur des projections de DIA, de pièces artistiques, donc des tableaux, des sculptures, des choses comme ça. Et c'était fabuleux, quoi. C'était très très intéressant. Et en enseignant là-bas, c'est là que j'ai le plus appris sur la façon dont la musique fonctionne, parce que tous les jours, on est obligé de regarder le même objet d'un angle différent pour essayer de comprendre comment les élèves fonctionnent, et personne ne comprend de la même façon. Et donc, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. On essaye de voir comment les gens fonctionnent et de leur donner les clés et les outils pour qu'ils parviennent à développer leur voix propre, quoi.
Mmh, ouais, tout à fait. Waouh. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Écoute, merci en tout cas pour tout cet échange et ce partage qui est extrêmement riche et intéressant.
Merci. Merci pour tes questions.
Mais pour c'est pas encore tout à fait terminé. J'aime bien terminer par une petite ouverture. Donc, je pense que tu as parlé pas mal de jeunes générations. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes régulièrement? qu'est-ce qui te... Alors soit tu écoutes parce que ça fait partie de des choses que tu écouteras de toute façon toute ta vie, parce que c'est un peu une référence, un pilier, et on en a tous des albums comme ça qu'on réécoute en permanence, mais des choses aussi peut-être plus nouvelles qui t'ont peut-être surpris et que voilà.
J'écoute plein de choses différentes.
Ouais.
En musique brésilienne, il y a évidemment les classiques, et il y a des amis, tu vois, avec les années, j'ai rencontré des gens comme Ivan Lins, c'est des gens comme ça que j'adore. Milton Nascimento, évidemment. Et ce sont aussi des gens qui n'arrêtent pas de se réinventer, tu vois, c'est un peu des Miles ou des Toots, qui passent un peu à travers tous les styles, tous les genres, mais qui ont toujours une personnalité extrêmement forte, et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'avoir pour moi aussi, tu vois. Je veux jouer plein de choses différentes, mais je veux aussi que ce soit clair que c'est moi quand je joue. Ouais, c'est ça. Et donc, maintenant, j'écoute des gens qui sont d'une génération un peu suivante au Brésil, comme Maria Gadu ou Lénine, ou des gens comme ça, qui écrivent des très très belles choses. Déjà, pour s'appeler Lénine, il faut avoir un certain background, quoi. Tu vois, c'est génial. En jazz, c'est la même chose. J'ai des grands classiques. Wayne n'arrêtera pas de me toucher et de m'influencer. Et Miles et Bill Evans et des gens comme ça. Ce sont des gens aussi qu'on écoute toute sa vie, parce que chaque fois on arrive à une couche plus profonde et parfois on redécouvre des choses où on se dit, mais évidemment, comment ça se fait que j'ai jamais entendu ça? C'est incroyable. C'est là depuis toujours et j'ai jamais entendu avant. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné aussi, c'est l'interaction dans les groupes. Y a une époque où je pouvais te chanter du début à la fin de certains disques de Miles, chaque instrument séparément. Je pouvais te chanter Tony Williams, je pouvais te chanter Ron Carter, Herbie Hancock, Wayne. Et puis, tu mets tout ça ensemble, et c'est comme ça que j'essaye de jouer la musique aussi. Pour moi, quand ça marche, c'est quand tout le groupe me joue, et moi, je joue tout le groupe. Et quand on arrive à ce moment-là, qui est un moment d'extase profonde pour moi dans la musique, c'est pour ça que je vis, quoi. Et j'essaie de trouver ça dans toutes les musiques. J'essaie de trouver ça quand j'écoute de la musique africaine, quand j'écoute de la musique indienne. Je veux dire, pour moi, il y a la bonne musique et il y a le reste. Et toutes passaient ces journées avec la radio. Et il jouait avec tout. Il écoutait la radio et il jouait avec tout. Et il disait, c'est une espèce de douche musicale. Et même quand tu te sèches les cheveux, après, il y a toujours quelques gouttes qui te restent dans les cheveux.
Ouais.
Et voilà, c'est ça que j'essaie de faire.
C'est une belle image. Waouh. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ça. Je remettrai les informations sur ton site internet. Je crois qu'on a parlé de ton label, mais on n'a pas donné son nom.
C'est exact.
Voilà.
Ça s'appelle Gam Records.
Voilà, donc.
Quelques années après que Gam existe, il y a un super label qui est apparu en Jamaïque et qui fait beaucoup d'albums de reggae, qui s'est appelé Gam Records aussi. Et donc quand on a refait le site, on a dû faire Gam Music. Donc c'est gammusic.com. Mais c'est Gam Records. Et il y a beaucoup de belles choses à découvrir et à redécouvrir dessus.
Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Donc je remettrai les liens vers ton site, vers le site de ton label pour venir voir ce
merci.
Que tu fais en tant que producteur. Voilà, allez voir le site du New Morning ou ton site directement.
Venez tous au New Morning, ça va être une soirée d'enfer. Et puis, j'espère que Blue Note Mode vous touchera, quoi.
Bah oui, j'en doute pas. C'est un très bel album. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment à l'écouter. Bravo pour ça. Super groupe. Et puis, bah, j'espère que j'aurai l'occasion de te voir live avec un groupe ou un autre. Et puis, bah voilà, les dates qui suivront le New Morning, en tout cas, seront disponibles sur ton site pour que ceux qui ne peuvent pas venir à Paris puissent quand même.
Ouais, c'est clair. Non, il y aura plein d'autres dates.
Profiter de ça.
C'est évident.
Merci beaucoup.
Merci Thomas.
Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer? C'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. À très bientôt, je vous laisse sur le titre Round Midnight, repris ici par Jean-François Prince.